Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
À l'occasion de l'ouverture du musée des Confluences à Lyon, pourriez-vous, demande Eric, évoquer l'histoire d'Émile Guimet, industriel, fondateur des musées lyonnais et parisiens portant son nom? Franck Ferrand a répondu oui. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. J'ai même répondu oh oui, car cela faisait longtemps que j'avais envie d'évoquer toutes les merveilles du musée Guimet. Alors, moi je parle du musée Guimet à Paris, mais c'est vrai que le nouveau musée de Lyon n'a pas l'air mal non plus. Hervé Beaumont vient de consacrer un récit à Émile Guimet, industriel et voyageur, il nous fait revivre son existence, et bien c'est lui qui nous accompagnera dans notre périple à travers l'Orient. Et à la fin de l'émission, je répondrai à la question de Pierre sur l'origine de l'utilisation du terme nègre en littérature. Pour le moment, je vois déjà se dessiner la bonne figure d'Émile Guimet au milieu des Bouddhas et des Bodhisattvas de son invraisemblable collection.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Notre auditeur, Eric, parlait de ce musée d'histoire naturelle, musée Guimet, qui, à Lyon, était fermé depuis 2007 pour travaux et pour cause. Les collections ont été transférées au musée des Confluences et on vient de l'ouvrir. Là, c'était le 20 décembre dernier, il y a à peine un mois, que les Lyonnais peuvent de nouveau profiter des merveilles réunies par Émile Guimet. Pourquoi Lyon? Eh bien, évidemment, nous allons y venir dans un instant. À Paris, le musée Guimet est très célèbre, bien entendu. C'est une institution réputée mondialement avec ses collections tout à fait extraordinaires et notamment les spectaculaires collections d'Arcmer. Alors évidemment, pour la plupart, ces collections ne sont pas les collections originales d'Émile Guimet. Elles sont arrivées du musée du Trocadéro beaucoup plus tard. Nous y viendrons, nous vous raconterons tout ça tout à l'heure. Ce que j'aimerais commencer par faire, c'est vous parler d'Émile Guimet, de vous dire qui il était vraiment. Pour tout vous dire, avec l'ensemble de l'équipe de Cœur de l'Histoire, nous avons visité avant-hier matin ce musée Guimet en compagnie de son conservateur en chef, Pierre Baptiste, qui nous a vraiment fait les honneurs de la maison. C'était très intéressant, très passionnant de voir l'incroyable richesse de tout ça. Alors, bien sûr, quand vous arrivez, d'abord l'architecture, avec cette rotonde, ce grand vestibule du musée Guimet, tout ça est impressionnant, d'autant plus qu'on a d'emblée installé là un certain nombre de pièces monumentales. Je pense notamment à ce fragment de la chaussée des géants du temple d'Angkor, une des plus belles pièces d'Arcmer. C'est tout à fait spectaculaire, cette divinité, cette espèce de... Ça a l'air d'être comme une proue de navire qui accueille, pour ne pas dire même qui cueille le visiteur comme ça dès l'entrée. Vous avez un petit peu plus loin également toutes sortes de sculptures bouddhiques vietnamiennes du 18e, du 19e siècle avec des bois laqués, colorés. La splendeur de ces collections est une chose incroyable. Je parlais d'Angkor, vous avez également le moulage à l'entrée d'une porte du temple d'Angkor Wat. On a l'impression d'entrer en Orient à mesure même que vous entrez dans les collections du musée Guimet. Alors il faut monter, les escaliers sont très beaux, eux aussi très accueillants, ils sont d'un volume parfait. Ils vous conduisent au premier étage à cette pièce historique du musée qui est la bibliothèque. J'ai eu l'occasion à ce même micro de vous parler déjà de la bibliothèque du musée Guimet, puisque c'est là que s'est produite Mata Hari, vous savez, lorsqu'elle a littéralement mis Paris en feu. Et à chaque fois que j'ai l'occasion de parler de Mata Hari, je raconte bien sûr cette célèbre soirée qui a eu lieu au musée Guimet, dans cette bibliothèque de style néo-grec, disons, une bibliothèque en rotonde absolument spectaculaire, avec ses grandes colonnes, avec ce côté tolos, en quelque sorte, c'est une tolos du savoir. Aujourd'hui, elle a été entièrement restaurée, elle fait partie intégrante de la visite et elle accueille en ce moment, du reste, une collection de photographies sur la région du Yunnan. Et puis, au deuxième étage, il faut aller voir l'art chinois avec toutes sortes de poteries, de rouleaux, des dessins. Vous savez, ces rouleaux qui s'étendent comme ça, s'ils s'étirent sur plusieurs mètres. L'art coréen, particulièrement bien représenté. Et je dirais même qu'il y a maintenant une sorte d'annexe du musée Guimet, puisque vous pouvez voir un tout petit peu plus haut sur l'avenue d'Iéna, le panthéon bouddhique japonais, dans un très bel hôtel particulier qui a été dévolu au musée Guimet en 1991, avec d'ailleurs un très beau jardin japonais. Dans ce jardin, on a reconstitué un pavillon de thé. Tout ça est absolument dépaysant, comme ça, en plein Paris, en plein 8e arrondissement. Et vous avez là des pièces du panthéon bouddhique japonais, tout à fait passionnantes, notamment une pièce tout à fait exceptionnelle, ce Seishi, qui vient d'un des plus grands temples du Japon et qui est considéré comme un véritable trésor national, au point même que des cérémonies bouddhiques sont organisées aujourd'hui dans le musée devant cette pièce tout à fait extraordinaire. Alors, ça c'est le musée Guimet d'aujourd'hui, mais dites-vous bien qu'à l'origine, ça ne ressemblait pas du tout à ça. Bon, bien sûr, il n'y avait pas le panthéon bouddhique japonais, il n'y avait qu'un seul musée au départ, avec un jardin intérieur et des galeries tout autour. Il n'y avait pas surtout toutes ces œuvres, puisque beaucoup, je vous l'ai dit, ont été rapportées par la suite. À l'origine, il y avait le musée voulu par M. Guimet, qui d'abord avait créé un musée à Lyon, et c'était un musée essentiellement dédié aux religions du monde, et pas seulement d'ailleurs aux religions orientales. La spécificité du musée Guimet, elle est venue plus tard, et même on peut dire que le musée n'est devenu le grand musée français des arts d'Orient que depuis la Seconde Guerre mondiale. Guimet, notre personnage, Émile Guimet, naît, nous dit son biographe Hervé Beaumont, naît en 1836, au moment où la France commence à se moderniser, et son existence s'achève en 1918, au moment où se termine une guerre absurde dont on ne cesse de ressentir les conséquences, nous dit-il. Eh bien, c'est vrai que cet homme aura en quelque sorte vécu à ce qu'on peut appeler la belle époque. Il l'aura pleinement vécu, cette belle époque, et même d'une certaine manière, il l'aura incarné. Alors, ce n'est pas un Parisien, vous l'aurez compris, c'est bien d'un Lyonnais que je vous parle aujourd'hui, à une époque où Lyon, ne l'oublions pas, hein, la cité lyonnaise du 19e siècle, est une métropole industrielle très importante, une métropole commerçante également, 300 000 habitants, 500 grands fabricants de textiles, puisque vous savez que la spécialité lyonnaise, au moins depuis le 18e siècle, c'est la soie, évidemment. À Lyon, il y a donc aujourd'hui encore des collections d'Émile Guimet, et pour cause, c'est bien là qu'il est né. Il est né le 2 juin 1836. Son père était un de ces industriels qui ont fait la fortune de la bourgeoisie du 19e siècle. Vous savez, il était polytechnicien, son père, un grand chimiste. Il avait mis au point un bleu, une teinture bleue chimique, un colorant artificiel, économique, un bleu outre-mer qu'on a très vite appelé le bleu Guimet. Ça, c'est l'aspect industriel de la famille. Il y a aussi un aspect artistique. J'y viens dans un instant.
Un extrait de la méditation de Thaïs composée par Jules Massenet. Revenons avec vous Franck Ferrand, notre industriel et collectionneur Émile Guimet.
Si Monsieur Guimet est aussi fortuné, c'est que son père a inventé un bleu, le bleu Guimet, qui a fait la fortune de la famille. Lui-même était déjà un grand industriel, il faut le dire. Et puis, Du côté de la mère, alors là on est dans une famille nettement plus artiste, la mère d'Émile s'appelle Rosalie Bidot, elle est de la famille Bidot, son père Jean-Pierre-Xavier Bidot et son oncle Joseph-Xavier Bidot sont des artistes, hein, on peut vraiment le dire, elle-même est artiste peintre, elle est musicienne et évidemment elle va transmettre à son fils cette sensibilité pour les arts et ce goût de la musique qui vont jouer un rôle très important dans sa vie. La famille habite en plein centre de Lyon, on n'est pas loin de la place des Terreaux, où est installé le musée des Beaux-Arts. Elle va déménager cette famille pour s'installer à Fleurieu-sur-Saône. On est là à une dizaine de kilomètres de Lyon, dans une de ces grandes maisons qu'on faisait à l'époque, bien entendu. C'est là aussi que se trouve le site industriel familial. Et Émile va passer là tout le reste de sa vie. Lorsqu'il ne sera pas en voyage et lorsque ses affaires ne l'attireront pas à Paris, bien entendu. Des coteaux plantés de vignes et des carrières de pierre forment la base du Mont d'Or, nous dit Adolphe Johann, le guide Johann, à propos de cette belle région, de ce coin du Lyonnais. L'éducation d'Émile est très soignée, inutile de vous dire. Il fait, et ça c'est, vous voyez qu'il est bien le fils de son père et de sa mère, puisqu'il suit parallèlement un parcours scientifique, avec des études scientifiques assez poussées, et puis par ailleurs des études artistiques. On l'emmène souvent, notamment au musée des Beaux-Arts, ce qui va faire de lui un enfant, puis un adolescent extrêmement cultivé. En 1860, il est encore tout jeune, hein, il a 24 ans, il prend la tête de l'usine, sans grand enthousiasme, il faut bien vous le dire, c'est plutôt un dandy, le jeune Émile. Il porte la lavalière, comme on fait à l'époque, il est coiffé en arrière avec un collier de barbe, enfin bon, il est bien le jeune homme, le jeune dandy de son temps. C'est aussi un industriel de son temps, c'est-à-dire avec une forte dimension sociale. Il s'intéresse beaucoup à la vie des ouvriers, etc. C'est un homme de communication, il faut le dire. Il a créé pour ses ouvriers tout un fonds qui vise à financer les accidents du travail, les retraites, etc. Bref, on est bien dans le paternalisme de cette époque du Second Empire. Pour vous donner une idée de la personnalité d'Émile, un jour que les vignerons dans les environs se plaignent de la fumée de l'usine qui, selon eux, cette fumée bleue serait très mauvaise pour la vigne, etc. Guimet leur dit « Mais enfin, mon produit est totalement inoffensif. Tenez !» Il attrape une boule bleue et, devant tout le monde, il l'avale. Et il leur dit « Si dans 15 jours, je ne suis plus là, vous aurez eu raison. Mais si je suis toujours en vie, alors c'est vous qui aurez eu tort. » En vérité, Monsieur Guimet fils, Émile, n'a pas très envie de cette carrière industrielle. On est dans la pleine époque des expositions universelles, celle de 1855, celle bientôt de 1867. On est dans l'époque des voyages et il va voyager. Il commence par l'Espagne, dont il fait d'ailleurs un récit de voyage, puis l'Allemagne. Et très vite, il est attiré, oh, je dirais même qu'il est aimanté, par l'Égypte. À 29 ans, il fait son premier voyage en Égypte et il a étudié l'égyptologie. Il connaît les hiéroglyphes. Il sait déjà presque toute cette civilisation lorsque il débarque sur place. Et alors évidemment, vous imaginez ce que c'est à l'époque, les bateaux à vapeur, les trains de luxe, etc., qui vous emmènent à pied d'œuvre sur des sites tout à fait extraordinaires. Et parmi ce que Émile Guimet va découvrir en Égypte, il y a le fameux musée de Boulak, hein, ce musée qui a été mis au point par l'un des pères de l'école française du Caire, par l'archéologue Mariette. Et ça, pour lui, c'est une grande découverte. Parce que, vous savez, jusqu'alors, ce qu'on appelait musée, c'était les héritiers directs des anciens cabinets de curiosité. On accumulait un certain nombre de belles pièces, on se souciait beaucoup de l'exposition et de l'effet d'ensemble, mais pas tellement d'instruire les visiteurs. Et pour cause, puisque la plupart de ces musées, pendant très longtemps, avaient été des musées privés qui étaient surtout destinés à la gloire du propriétaire et à l'amusement de ses hôtes. Et là, d'un seul coup, on crée des musées publics et des musées qui vont être didactiques. Et oh, dans ce musée de Boulak, en fait, Guimet découvre qu'on peut transformer une collection en moyen de savoir et en moyen d'apprentissage. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. Alors bon, il faudrait aussi vous parler de tous les petits problèmes, mais je vous renvoie à la biographie d'Hervé Beaumont, hein. Ça ne se passe pas toujours bien, les voyages à l'époque, notamment on lui vole son portefeuille au moment du départ, etc. Enfin, évidemment, il y a tous les petits soucis du voyage, mais ce qui est important, c'est ce que Émile a retenu de ce premier voyage. Alors, il a fait des carnets de voyage, il a tout noté heure par heure avec énormément de détails. Il a surtout rapporté des centaines d'objets dans cette Égypte qui, à l'époque, disons-le clairement, est littéralement à vendre. Tout est à l'encan. Alors, on peut acheter des ouchéptis, etc., comme aujourd'hui, c'est des petites figurines, mais on peut aussi acheter de très grosses pièces et on peut aussi acheter des sarcophages et des momies. Il faut imaginer Émile Guimet qui, rentrant chez lui, a dû entreposer ça un peu partout. On est obligé d'enjamber les momies pour accéder au lit dans sa chambre. « J'entreprenais comme tout le monde un voyage de touriste en Égypte », écrira-t-il, « la vue des monuments, les visites du musée de Boulak, la lecture du merveilleux catalogue rédigé par Mariette, attrayant même pour les profanes, tout cela avait ouvert mon esprit aux choses des temps passés. » Non seulement ça a ouvert son esprit, mais ça lui donne des ailes, à notre guillemet. Ça lui donne l'envie d'en faire autant, ça lui donne envie d'instruire à son tour les populations.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Retour avec vous, Franck Ferrand, à la vie d'Émile Guimet.
Je passe un peu vite volontairement sur certains aspects biographiques sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir, et notamment sur la perte de ses deux sœurs, qui va être pour lui une chose terrible. Ce qu'il faut dire, c'est que les voyages s'enchaînent dans la vie d'Émile Guimet. La Grèce, la Turquie, la Roumanie, la Yougoslavie, l'Autriche, etc. Alors, entre deux voyages, tout de même, il pense au mariage. Il a rencontré la fille d'amis de ses parents, Lucie Saint-Laville. Elle a 18 ans. Le mariage a lieu le 3 septembre 1868 à Paris. Ah ben ça va pas être très long puisqu'elle meurt 3 mois plus tard. Et le voilà qui lui aussitôt, sans doute pour oublier ses peines, repart pour l'Afrique du Nord. Cette fois c'est l'Algérie, la Tunisie. À son retour, c'est son père dont il apprend le décès. Ça lui donne sans doute encore envie de fuir et de fuir de plus en plus loin et de fuir vers l'Orient. Ah, vous vous dites, j'entends déjà vos soupirs là de l'autre côté de l'autoradio ou de l'ordinateur. Vous vous dites, ah ça y est quand même, nous y voilà. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas parlé de cet Extrême-Orient auquel le nom même de Guimet est attaché. Et pour cause, il n'y est venu en quelque sorte qu'un petit peu plus tard, après avoir consacré à l'Égypte 10 années d'études. Et puis petit à petit, l'Égypte l'a amené à la question spirituelle, à celle des religions. De la religion égyptienne, il en est venu aux religions du Moyen-Orient, de l'Orient antique, et puis petit à petit et tout naturellement, à celle du Grand Orient. C'est-à-dire, quand je dis du Grand Orient, pas de mauvais esprit, à celle de l'Extrême-Orient, bien entendu. C'est la mort de sa mère en 1876 qu'il convainc de partir, et on a presque l'impression que tous les départs d'Émile Guimet sont liés à des chagrins personnels et comme à une forme de nécessité de fuir, peut-être. Alors, il a pour objet l'étude des religions. Et ça, nous allons y venir parce que c'est fondamental, c'est bien la question religieuse qui est au centre. L'étude des religions du Japon, de la Chine et des Indes. Il part faire ce qu'on appelle à l'époque un tour du monde, mais vous allez voir qu'il se consacre justement à cette partie orientale de la planète par rapport à l'Occident. En tout cas, il part en mai 1876. Il travaille à l'époque pour préparer son voyage sur les documents et sur les ouvrages qui existent. Et je pense notamment à ceux de l'allemand Siebold. Il se fait accompagner d'un peintre, ça c'est très important, même si à l'époque la photo est en train de se développer, mais un peu dans la tradition de l'expédition d'Orient de Bonaparte, si vous voulez, il est accompagné d'un peintre qui, en l'occurrence, est Félix Régamet, qui lui-même est un passionné du Japon, et qui menait une vie assez insouciante. Il est anglophone, ce qui est très pratique lorsqu'on voyage, n'est-ce pas ? L'Orient, dites-vous bien que l'Orient, à l'époque, est très à la mode. N'oubliez pas qu'après le fameux sac, et désastreux sac du Palais d'été, vous savez, au tout début des années 1860, on a rapporté à Paris et à Londres un grand nombre de merveilles de la Chine. L'empereur Napoléon III et son épouse, l'impératrice Eugénie, ont eux-mêmes développé les collections. Ils ont créé le fameux salon chinois de Fontainebleau, et ça donne envie aux grands bourgeois de l'époque d'en faire autant. Ça fait des années, pour ne pas dire même des siècles, que l'Occident et l'Europe se passionnent pour l'Orient, mais il y a dans cette fin de 19e siècle une nouvelle vague particulièrement forte d'orientalisme, de japonisme également. Oh ben relisez Proust tout simplement et vous verrez à quel point les références sont multiples au Japon, aux arts de l'extrême-orient, aux peintures extrême-orientales, etc. Et aux religions et aux panthéons de ces régions. Alors, je passe sur les États-Unis, parce qu'évidemment, quand même, c'est bien un tour du monde qui est bien obligé de faire Émile Guimet, et c'est le Japon qui va le frapper le plus. Un Japon qui ne s'est ouvert que depuis très peu de temps. N'oubliez pas que le pays n'est accessible aux Occidentaux que depuis 1854. Sur un plan religieux, celui qui passionne tellement Guimet, c'est l'époque où le bouddhisme s'est séparé du shintoïsme. Les Occidentaux, à l'époque, sont très bien accueillis au Japon. Ça fait partie même de la politique impériale de l'époque. Et Guimet est reçu à la fois très bien par toutes les autorités officielles, etc., mais aussi par tous ces moines bouddhistes qui sont très heureux qu'un occidental s'intéresse à eux à une époque où le moins qu'on puisse dire est qu'ils ont été mis de côté par la société japonaise. Alors là, pour Émile Guimet, ça va être une découverte, ça va être une série de découvertes extraordinaires. Il visite ces temples perdus dans les forêts, il rencontre les plus hautes autorités spirituelles du pays. Il découvre aussi les modes de vie traditionnels japonais, les geishas bien entendu, l'utilisation des kimonos, les cérémonies du thé, etc. Il va visiter les temples de Tokyo également, Sengakuji, Ueno, etc. Le voilà parti vers Kyoto. C'est la grande étape, Kyoto, incontestablement. Hervé Beaumont nous dit, au cours de son voyage au Japon, Émile Guimet pérégrine avec la simplicité d'un moine. Il se livre à ce qu'il découvre, ce qui le touche, ce qu'il rencontre. Il n'est pas bouddhiste par vocation, mais il se rapproche de l'essence de la doctrine de Bouddha. Ça, c'est une question qui, moi, m'intéresse beaucoup, parce que lorsqu'on regarde dans ce qui aujourd'hui constitue la collection du musée Guimet, je devrais dire des musées Guimet, lorsqu'on regarde ce qui est en propre venu par Guimet lui-même, on se rend compte qu'il y a énormément d'art bouddhique. Était-il lui-même bouddhiste ? J'ai posé la question à Pierre-Baptiste avant-hier matin. Il me dit non, je ne crois pas qu'on puisse répondre cela. Il n'était peut-être pas bouddhiste, mais alors, comme il connaissait bien le bouddhisme. Bonjour Hervé Beaumont. J'étais obligé d'aller très vite pour évoquer cette vie incroyablement foisonnante. Nous allons revenir sur ces voyages, nous allons revenir surtout sur cet intérêt central d'Émile Guimet pour les religions en général et les religions d'Orient en particulier.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de l'industriel et collectionneur Émile Guimet, avec votre invité Hervé Beaumont, historien de l'art, auteur des aventures d'Émile Guimet, un industriel voyageur aux éditions Artaud.
Alors, je le disais à l'instant, nous allons, Hervé Beaumont, revenir sur les voyages d'Émile Guimet, mais avant, parlons des musées, bien entendu. Cette idée de créer un musée lui vient à quel moment ? Quand ouvre-t-il ce premier musée, qui est un musée lyonnais, il faut bien le dire.
Alors, le premier musée, c'est en 1879, et le musée de Paris est en 1889.
C'est-à-dire que dans un premier temps, son idée était de créer un musée à Lyon.
Oui, alors, lorsque Émile Guimet, justement, veut consacrer deux musées, donc aux arts orientaux, cela ne s'est jamais vu. C'est la première fois, et l'art asiatique est occulté à l'époque par des civilisations de la Grèce, par les civilisations de Rome, de l'Égypte, qui sont à peine révélées par l'archéologie. Champollion découvre les hiéroglyphes en 1822, et donc le mérite d'Émile Guimet, c'est de sortir de cette situation, et son œuvre clé, c'est accéder à l'art oriental par les religions. Et cela qui est important, puisque donc cela n'est pas très facile. Donc il aborde l'art asiatique par des textes, d'abord par l'iconographie, par des documents. Ensuite, il réunit ces documents. Il fait ensuite ressortir les axes d'une évolution historique et archéologique. Et ensuite, il aborde évidemment l'art asiatique par son esthétique.
C'est-à-dire que pour parler clairement, au départ, l'idée est de créer un musée religieux, c'est sur les religions en tout cas.
C'est un musée religion, de religion, et il aborde les religions permettant d'accéder à l'art.
Ce qui veut dire que, mettons peut-être de côté le premier musée lyonnais, lorsqu'il ouvre à Paris en 1889, c'est pas une date innocente 1889, puisque c'est l'exposition universelle, c'est la création de la Tour Eiffel, etc. Donc évidemment, il veut profiter en quelque sorte de l'afflux planétaire à Paris lors de cette exposition du centenaire de la Révolution française en 1889 pour faire connaître ses collections. Et lorsqu'il ouvre ce premier musée qui a déjà l'architecture extérieure que nous lui connaissons, au coin de l'avenue d'Iéna à Paris, tout près de la Tour Eiffel d'ailleurs, lorsqu'il ouvre ce musée, c'est un musée qui n'est pas spécifiquement dédié à l'Orient, mais aux religions et notamment à l'Égypte, il faut pas
l'oublier. Oui, on retrouve des collections égyptiennes, on retrouve principalement le culte isiaque dans Gaule, on retrouve tout un ensemble de pièces qui vont...
Il s'intéresse aux religions grecques et romaines.
Il s'intéresse à toutes les religions. Oui, toutes les religions, et lorsqu'il va faire son voyage principalement 8 jours aux Indes, il compare les statues hindoues aux statues égyptiennes, et remonte...
Le but, c'est de faire un musée de religions comparées. C'est d'aller chercher les points de ressemblance ou de différence entre les panthéons de toutes ces religions polythéistes. C'est d'essayer de comprendre quelles sont, en quelque sorte... Il y a quelque chose... Vous allez me dire si je fais fausse route, ce qui est possible, mais il m'a semblé qu'il y avait quelque chose de jungien dans la démarche d'Émile Guimet, dans cette espèce d'approche comparée de religion qui cherche à saisir ce qu'il y a de spirituel en l'homme, en quelque sorte. Hein, c'est ça son but. Et comme il a une immense fortune, et comme il voyage beaucoup et qu'il a les moyens d'acheter énormément d'objets, eh bien tout ce qu'il peut y avoir de religieux, ancien ou pas ancien, d'ailleurs parfois très ancien, il ramasse tout ça, il le montre, et alors on est à l'époque où on met tout dans un musée. Il n'y a pas de réserve. C'est-à-dire que tout est exposé. On a des tableaux qui nous donnent des portraits de Guimet au milieu de ses collections. On a l'impression d'un véritable Capharnaüm.
Oui, l'objet d'art ne l'intéresse pas. L'objet d'art l'intéresse par la religion, par son aspect religieux. Donc essentiellement, et c'est pour cela qu'il va collectionner, après son voyage au Japon, je rappelle qu'il reste 9 semaines au Japon. Bon, oui, ce qui est très court. Il reste 9 semaines, et en 9 semaines, il arrive à acheter 400 peintures, 600 sculptures, 1000 ouvrages, et puis et pour créer ce musée des religions. Mais pour lui, la religion, évidemment, l'objet d'art n'est pas suffisant. Il y a le livre. Et c'est pour cela, ce qui est très rare, il crée un musée avec une bibliothèque.
Et voilà.
Ce qui n'est pas courant.
C'est-à-dire qu'il y a toute une démarche pédagogique chez Émile Guimet. Ce que m'expliquait le conservateur en chef avant-hier matin, ça c'est assez amusant, c'est qu'en fait les cartels, les notices explicatives étaient particulièrement développés dans le premier musée Guimet, et qu'il devait falloir des heures, pour pas dire des jours entiers, pour pouvoir visiter tout ça, car on avait droit à un véritable cours de religion comparée devant chaque vitrine en fait. Hein, c'est ça.
Bon. Alors les catalogues d'ailleurs portent essentiellement sur l'aspect religieux.
Dans un instant, on va voyager sur les pas de Guimet, on va revivre ses voyages, revivre tout ça. On va parler de musique aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un homme de musique. Mais pour finir sur le musée, si je puis dire, nous avons aujourd'hui un musée dont les formes générales et dont les décors et dont la muséographie s'adaptent, et s'adaptent à merveille, à ces collections orientales et extrême-orientales qui ont été considérablement enrichies par le musée du Trocadéro, par le musée d'Arcmer, etc. C'est-à-dire que par le Louvre, qui a prêté énormément, en échange d'ailleurs du départ au Louvre d'un certain nombre des collections égyptiennes de Guimet. Bon. Mais à l'époque, ça n'était pas le cas. On avait, ça c'est assez étrange, on avait un musée dont l'esprit était tout à fait conforme à ce qu'on appelait à cette époque-là l'art éclectique, c'est-à-dire qu'on s'était rapproché le plus possible de l'architecture grecque et romaine. Le musée était un peu pompéien ou néo-pompéien, on peut dire ça.
Oui, je crois que la Grèce et Rome étaient les références. Et en plus, après les découvertes en Égypte, vous l'avez évoqué, la fondation du premier musée égyptien par Auguste Mariette avait été vraiment quelque chose de tout à fait stimulant. Et donc au départ, le musée, c'est un peu un fourre-tout, hein, donc, et le musée Guimet, c'est essentiellement basé sur à la fois chaque religion. Il va même ouvrir des salles après son voyage de 1876-1877 sur le zoroastrisme. Il s'arrête à Bombay, il s'arrête chez les Parsis. On lui offre peut-être, on ne sait pas très bien, en tout cas des objets zoroastriens, et il développe le plus possible d'objets religieux dans son musée. Et le musée des religions cessera pratiquement donc à la mort d'Émile Guimet à partir de 1918. Ce sera un musée qui va donc vraiment recevoir les grandes missions. Mais déjà de son vivant, il reçoit les missions coréennes, il reçoit les missions d'Asie centrale.
Et dès les années 30, ça devient le grand musée.
Et là, ça devient le musée d'art asiatique.
Avec une dimension moins religieuse, même s'il y a toujours beaucoup d'objets religieux, mais en tout cas, on s'intéresse davantage à l'art et à la civilisation.
C'est avant tout l'objet d'art.
Voilà, c'est ça.
Qui est l'esthétique. L'esthétique de l'objet. Et c'est pour cela, d'ailleurs,
vous l'avez fait un tri dans les collections.
Bien sûr. Et vous l'avez évoqué. Pour lui, l'ancienneté d'un objet n'est pas primordiale. Il y a des copies, il y a des maquettes, il y a l'important, c'est justement de comprendre le côté religieux.
Vous voulez que je vous dise, plus j'essaie de cerner ce personnage, plus je me dis qu'il est un peu la quintessence même de ce qu'on a appelé la Belle Époque. Il est à la fois l'héritier de cette lignée d'industriels qui lui a donné une immense fortune, des moyens presque illimités. Il est l'héritier de ces artistes, de ces peintres, de ces musiciens qui l'ont ouvert, qui l'ont sensibilisé à toutes les beautés de la planète. Il est à la recherche d'une spiritualité comme beaucoup de ces grands bourgeois de l'époque, et il essaie de mettre tout ça au service de la population. On a dit qu'il était un industriel social, en quelque sorte. Eh bien, il est également un grand mécène et un philanthrope. Je crois que s'il y a un mot à retenir à propos d'Émile Guimet, c'est bien cette notion de philanthropie. Son but est de mettre à disposition du public un certain nombre des merveilles que ses voyages lui ont permis de réunir, en vérité.
Il le dit lui-même, le but d'un musée, c'est de semer du bonheur. Donc, il veut que le musée soit accessible à un vaste public, que tout le monde puisse s'instruire dans un musée. Il ouvre ce premier musée à Lyon, qui d'ailleurs n'a pas beaucoup de succès, et qui, quelques années après, à partir de 1882-83, va être désaffecté, et il se tourne vers Paris.
Vers Paris, l'expo.
L'expo, et puis ensuite, parce qu'il y a, il dit, les savants sont à Paris, donc c'est, et comme il dit, je déplaçais l'usine moi-même, parce que l'usine fonctionnait mal, plus ou moins.
Il faudra
donc
faire un jour une émission sur tous ces grands projets qui sont nés dans les régions françaises et qui ont fini à Paris. On ne pourra jamais changer ce fait que la France est un pays centralisé,
absolument.
Que voulez-vous,
hein.
Donc tout finit toujours à Paris.
Tout finit à Paris, et ils le sont très bien.
Oui. Alors, la révélation, vous nous le dites très bien, il l'a lors de son premier voyage en Égypte, lorsqu'il se trouve dans ce musée de Boulak. Qu'est-ce que c'est que ce musée ?
Alors, le musée de Boulak, c'est le port du Caire à l'époque, c'est aux environs du Caire. Eh bien, c'est un musée qui a été donc constitué par Auguste Mariette, qui est le fondateur.
Grand égyptologue.
Oui, c'est le fondateur du musée du musée du Caire.
Élève de Champollion.
Un personnage aussi qui s'installe donc en Égypte, qui vit. C'est lui qui achète pour la France le scribe accroupi, c'est lui qui fouille les temples le temple de Dendera. Et le voyage en Égypte est un voyage touristique, hein. Donc il reste 2 mois en Égypte, il part avec 8 personnes. C'est une croisière, c'est pas du tout la même mission que le voyage en Asie qui aura lieu beaucoup plus tard en 1876. Nous sommes en 1865. Il a une connaissance très approximative de l'art égyptien. Il a quand même donc étudié, mais c'est à son retour qu'il va évidemment étudier principalement les cartouches pour arriver à déchiffrer les noms des grandes divinités.
Une chose est sûre, maintenant il a le feu sacré et il a bien l'intention d'aller plus loin.
Voilà.
Nous allons le suivre dans son fameux tour du monde.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Dans les vignes
Un extrait de l'opéra Tide Song composé par Émile Guimet en 5 actes, au piano Denis Engrel et au chant notre invité Hervé Beaumont, historien de l'art, auteur des aventures d'Émile Guimet, un industriel voyageur aux éditions Artaud. Émile Guimet dont vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand.
Je le disais tout à l'heure, c'est au printemps 1876 que Émile Guimet se lance dans son fameux tour du monde, Hervé Beaumont. Vous me disiez, c'est un voyage qui va durer le temps d'une gestation, 9 mois.
Pratiquement,
oui. Ouais. Et alors là, il est à la recherche de tout ce que les civilisations anciennes ou même récentes ont pu produire dans le domaine de la religion. C'est ça qui le passionne.
Oui, alors il a un ordre de mission, à la différence du voyage en Égypte où il est simple touriste. Il a une mission du ministère de l'Éducation nationale, des Beaux-Arts et des Cultes, et il s'embarque pour ce tour du monde. Après, comme vous l'avez souligné, la mort de sa mère en 1876, il part d'abord pour les États-Unis. Il va à l'exposition de Philadelphie en tant que capitaine d'industrie. Il va présenter son bleu qui
le... C'est-à-dire qu'une fois de plus, une exposition universelle a joué un rôle important dans sa décision.
Voilà, c'est un peu la date qui détermine, puisqu'il assiste à la première exposition aux États-Unis, première exposition universelle de Philadelphie, et il retrouve son ami Félix Régamé, qu'il avait rencontré un peu auparavant, à l'issue d'un oratorio qu'il avait fait exécuter pour la première fois. Et il faut quand même souligner que ce voyage de 1876 est quand même assez difficile malgré les progrès de la navigation. Oui. Il traverse les États-Unis au moment des révoltes Sioux. Il se rend au Japon à une époque de cette révolution de Meiji
qui avait 20 ans,
1868, et qui avait complètement bouleversé le Japon. Il se rend donc en Chine qui est troublée politiquement. Il ne peut pas d'ailleurs aller à Pékin. Il se contentera de la Chine maritime.
C'est un peu sa déception, la Chine,
oui,
non ?
La Chine est sa déception parce que au Japon, il avait cet ordre de mission, il avait ses entrées, il avait été reçu par les moines, dans les monastères, et en Chine, il est déçu.
C'est
il est déçu
où la parce Chine, qu'il n'est pas aussi bien. La Chine a quand même souffert du colonialisme anglais et français. On n'est pas forcément les bienvenus, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le pays est dans un état de très grande déliquescence, par ailleurs, y compris sur un plan religieux, d'ailleurs.
Plan religieux et ensuite...
Le taoïsme a du plomb dans l'aile, si j'ose dire.
Absolument, et l'insécurité règne, donc il aurait pu aller à Pékin et visiter les environs avec Régamé, on imagine, ça aurait été sans doute l'objet d'un ouvrage, mais enfin, il n'y va pas. Donc il se contente de visiter Shanghai, de visiter Hong Kong et Macao. Et ensuite, donc, il s'arrête à Saïgon et il se rend, 8 jours au Zen, qui sera l'objet d'une publication en feuilleton dans une revue qui est sur le tour du monde.
Ce qui est très étonnant, c'est qu'il reste peu de temps dans tous ces endroits.
Il reste très peu de temps. Alors, il achète très peu de choses en Inde, mais il achète surtout donc au Japon. Alors, évidemment, il bénéficie de cette révolution de Meiji qui, avec la séparation du Shinto et du bouddhisme, donc met le Shinto en premier plan, puisque le Mikado, l'empereur, adopte le Shinto, qui est une religion populaire, qui est une religion basée sur les esprits, qui est le culte de la nature, et le bouddhisme est rejeté. Donc les monastères monastères bouddhiques sont plus ou moins abandonnés, les objets sont vendus, et il profite à mendre de cet achat d'acheter et de, comme il le dit, de bibloter. Donc il achète, et il ramène une grande collection.
C'est vrai que là c'est un peu l'occasion qui fait le larron, nous dites-vous, finalement. La déliquescence du bouddhisme au Japon à cette époque a facilité les achats de toutes sortes d'objets. Mais est-ce qu'il y a de sa part un intérêt particulier pour le bouddhisme en dehors de cette circonstance ?
Oui, parce qu'il avait déjà... il part au Japon en étudiant parfaitement tout le panthéon bouddhique
japonais.
Japonais,
hein,
il consulte un ouvrage Panthéon von Nippon de Siebold, qui est un ouvrage très complet. Et lorsqu'on voit les salles de ce panthéon bouddhique à l'hôtel Edelbach, on se rend très bien compte qu'il y a une classification des divinités, il y a une thématique dans le panthéon japonais qu'il connaît très bien. Et donc il n'achète pas au hasard, il sait ce qu'il doit acheter. Et alors il y a des pièces pièces qui sont récentes, mais il a.
Il a des conseillers. Il a des. Il y a des gens qui vont fureter pour lui.
Non, pas du tout. Pas à ma connaissance. Il fouille donc pendant que Félix Régamé dessine. Comme vous l'avez dit, c'est un voyage. Il fait 1000 kilomètres sur ce Japon avec un ordre. Il a un ordre de mission. Il ne peut pas tout visiter. C'est pour ça qu'il ne se rend pas à Nara, qui est l'ancienne capitale impériale. Et il a, c'est vraiment très établi. Et il va le faire 1000 kilomètres à pied, à cheval, en pousse-pousse. Et pratiquement, il inaugure le premier chemin de fer entre Yokohama et Yedo, c'est-à-dire
entre Tokyo. Aujourd'hui, on les mettrait dans des containers. Comment c'était à l'époque?
C'est dans des caisses. Ces caisses sont expédiées jusqu'à Marseille, ensuite jusqu'à Lyon. Et lorsque a lieu la première exposition universelle de 1878, le musée de Lyon n'est pas encore ouvert.
Mais international.
Mais les caisses sont à peine déballées et il expose ses premiers. Il expose déjà presque. C'est presque dans des caisses les premiers objets japonais qu'il a ramenés. Son but est de présenter justement ce panthéon bouddhique japonais. Le Japon est très à la mode.
Par le
japonisme.
De la poule ou de l'œuf? Est-ce que le Japon est déjà à la mode et que Guimet vient s'engouffrer dans cette brèche? Ou est-ce que ce sont les collections rapportées par Guimet qui ont mis le Japon à la mode?
Le Japon est déjà à la mode. Il avait été déjà révélé par des gens comme Burti. Il y avait quand même les frères de Goncourt. Tout cela avait été très à la mode. Ça va se propager chez les peintres, chez les écrivains, chez des décorateurs. Enfin, c'est vraiment
l'éloge de l'ombre.
Van Gogh achète, Baudelaire achète des estampes. Van Gogh collectionne les estampes.
Et Monet donc.
Monet également. Donc nous avons ce goût pour ce japonisme avec la grande toile à la mode. C'est la japonaise de Monet qui aujourd'hui se trouve au musée de Boston et qui est vraiment l'œuvre emblématique de ce japonisme.
Alors c'est Émile Guimet, on l'a bien compris, à la fibre collectionneuse, la fibre voyageuse. Il est à la recherche d'une spiritualité. Alors j'ai posé la question l'autre jour, donc j'ai posé la question à Pierre Baptiste, était-il bouddhiste? Il me dit non, on ne peut pas dire qu'il était bouddhiste. Alors comment le définiriez-vous sur un plan spirituel?
Je pense qu'il avait l'esprit bouddhiste, parce que par exemple, vous savez, il épouse Lucie Salonville et puis se remarie avec Marthe, hein, donc sa belle-sœur qui est férue d'équitation, de chasse, et elle lui propose d'aller à la chasse. Et lui, il n'est pas question d'aller à la chasse, il n'est pas question de tuer un animal, lui en bon bouddhiste, hein, mais bouddhiste extérieur.
Il n'est pas pratiquant de la religion.
Non, il n'est pas pratiquant, mais tout de même, lorsqu'il est dans les temples de Kyoto, donc il assiste à des cérémonies religieuses, il demande presque de petits conciles qui sont organisés pour lui. Il rencontre les moines supérieurs et un tableau célèbre de Félix Régamé qui se trouve donc au musée d'Elbach le représente assis à une table avec les moines et il évoque Dieu. Pratiquement Dieu, Bouddha, et il dira d'ailleurs que ce soit Jésus, Bouddha ou Mahomet, tous ces grands créateurs de religion ont été à l'origine de transformations sociales, car il fait du social,
du social, de l'artistique. Il y a une recherche d'harmonie chez cet homme à travers la musique notamment. Ça, c'est un des aspects importants que vous mettez en avant.
Absolument, parce que Émile Guimet, je pense que la vocation d'Émile Guimet est d'être musicien. Lorsque son père lui confie l'usine en 1860, il le fait sans grande conviction, mais tout de même, hein, il se contente pas de faire marcher l'usine, comme on dit, mais également, par exemple, de développer l'aluminium par électrolyse de l'alumine. Il va être à l'origine ce qu'on appelle la compagnie d'Allé de Camargue, qui va devenir la société Péchiné, et Guimet sera le président directeur général style de Pechiney jusqu'à son décès, jusqu'à 1918. Il sera nommé président à vie. Hein, donc,
pour revenir à la musique, il a écrit une centaine de romances, deux oratorios, oui. Des pièces pour piano, un opéra en cinq actes. Alors, c'est tableau quand même. Hein.
Absolument.
C'était donc, il peut être considéré comme un compositeur aussi, il ne faut pas l'oublier.
Je pense que c'est un grand compositeur qui laisse une œuvre aussi importante qu'un compositeur français comme Duparc ou Ernest Chausson, et c'est sa vocation. Il a une très bonne formation musicale, il est initié par sa mère qui est pianiste, mais aussi il travaille avec un compositeur, musicologue qui s'appelle Landau, qui avait été le professeur d'harmonie de Richard Wagner.
Et voilà, c'est quand même pas rien.
Et en 1918, il va publier un ouvrage justement sur la quinte augmentée, en images.
Ça veut dire que c'est même un théoricien de la musique.
C'est un théoricien de la musique, quelques mois avant son décès, où il parle de cette quinte augmentée qui avait été utilisée par Wagner dans la chevauchée des Valkyries et qu'il utilise dans le premier tableau de son opéra sur la déroute des armées chinoises.
Merci beaucoup Hervé Beaumont. Vous êtes donc, je le rappelle, l'auteur des Aventures d'Émile Guimet, un industriel voyageur, on pourrait presque ajouter musicien. C'est publié chez Artaud. Merci beaucoup de nous l'avoir fait aimer.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Pierre. Il nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Pierre souhaiterait connaître l'origine du mot nègre, sa connotation péjorative ainsi que sa signification en littérature.
Alors je commencerai justement par cette signification en littérature. C'est au milieu du XVIIIe siècle qu'on a commencé à employer ce terme de nègre pour parler, vous savez, de l'auteur qui dans l'ombre aide un écrivain à écrire ses livres, voire même parfois les écrit carrément à sa place. Nègre, c'est en quelque sorte peut-être l'esclave de l'écrivain, d'une certaine manière. Je pense qu'Alexandre Dumas joue un rôle important dans ce vocable. Vous savez que lui-même avait un ancêtre noir, et il est très probable que ça a joué un rôle dans l'emploi du terme. On sait notamment que l'un de ces fameux nègres, Eugène de Mirecourt, écrira un pamphlet qui s'appelle « Fabrique de romans, maison Alexandre Dumas et compagnie ». Alors, d'où vient ce terme au départ de nègre? Ça vient du mot noir, hein, en latin, niger, qui est devenu négro en espagnol. Au XVIIIe siècle, c'est le terme spécifique qu'on utilise pour désigner les esclaves. Et vous comprenez pourquoi, très tôt, ce terme, dans l'imaginaire occidental, est devenu un terme péjoratif, bien entendu. On va essayer peu à peu d'euphémiser ce terme, avec une certaine difficulté. On se met à parler au tournant du XXe siècle de gens de couleur, évidemment. Mais, ce qui est très intéressant, c'est que comme souvent, lorsqu'un terme est particulièrement négatif, lorsqu'il a été déprécié, lorsqu'il est péjoratif, certains vont s'en emparer pour essayer au contraire de l'arborer avec fierté. Et ça, c'est tout le mouvement de la négritude qui a été si bien incarnée par Aimé Césaire, par Léopold Sédar Senghor et par Léon Damas, qui vont monter, lancer ce mouvement de la négritude, un mouvement de libération culturelle d'abord et puis politique du monde noir. Insulté, asservi, dira Jean-Paul Sartre, le noir se redresse, il ramasse le mot de nègre qu'on lui a jeté comme une pierre, et c'est vrai que ça devient une fierté et même un symbole d'identité. Alors est-ce que les écrivains fantômes dans l'ombre des grands écrivains vont un jour reprendre fièrement ce terme de nègre? Ça, c'est une autre histoire.